Bienvenue sur le podcast Portrait de génie. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Wilhelm Furtwängler, qui est un des plus grands chefs d'orchestre de l'histoire de la musique. Donc Gustav Heinrich Ernest Martin Wilhelm Furtwängler est né le 25 janvier 1886 à Berlin et décédé le 30 novembre 1954 à l'âge de 68 ans à Baden-Baden. Il est considéré comme l'un des plus grands chefs d'orchestre allemand, si ce n'est le plus grand de la première partie du XXe siècle. Il a sublimé bon nombre d'œuvres comme celle de Beethoven, de Wagner et globalement tout le répertoire allemand. Il fut également controversé par ses positions pendant la Seconde Guerre mondiale que j'évoquerai à la fin de ce podcast. Il est principalement connu comme chef d'orchestre, mais il faut savoir que c'est également un compositeur. Il s'est illustré dans la direction d'orchestre par choix financier, plutôt que de poursuivre son rêve d'être un grand compositeur. Il a écrit plusieurs symphonies, un bon nombre de pièces de musique de chambre ainsi qu'un Tédéum. Lors de sa carrière, il a mené à son apogée l'Orchestre Philharmonique de Berlin auquel il s'est identifié toute sa vie. Il a synthétisé la tradition d'interprétation germanique qui avait initié Richard Wagner. Il est né dans un milieu plutôt aisé. Son père était un éminent archéologue qui dirigea de nombreuses fouilles allemandes à Mycène et à Olympie notamment. Sa mère était peintre, ce qui lui a donné, j'imagine, très tôt le goût de l'art. Il a passé son enfance près de Munich, là où son père enseignait à l'université. Il a reçu une éducation musicale dès son plus jeune âge, avec une prédilection pour Ludwig van Beethoven, compositeur qui l'accompagnera toute sa vie. À 7 ans, il a pour vocation de devenir compositeur, une vocation qui ne le quittera jamais malgré son travail de directeur d'orchestre. Il fit ses débuts de chef d'orchestre à l'âge de 20 ans. Lors de son premier concert à Munich le 19 février 1906, il dirigea la consécration de la maison de Beethoven, un poème symphonique en si mineur de sa composition et la 9e symphonie d'Anton Bruckner. Les musiciens à l'époque étaient un peu irrités que ce si jeune débutant choisisse une œuvre aussi difficile que la 9e symphonie de Bruckner pour son premier concert. Lors de la première répétition, sa technique de direction était tellement catastrophique que les musiciens furent persuadés que le concert n'aurait jamais lieu. Mais étonnamment, Furtwängler sut leur transmettre par-delà ses gestes incontrôlés sa conception de cette symphonie. En 1911, il postule à une audition pour devenir le chef d'orchestre de l'orchestre municipal de Lübeck. Le jury ne l'a jamais pris au sérieux. Sa technique de direction était dramatique. Cependant, les musiciens de l'orchestre furent bouleversés par ce jeune candidat qui semblait possédé par la musique et qui leur transmettait sa passion à travers un sixième sens. Il obtint le poste et en 1913, le 28 avril exactement, il dirigea pour la première fois de sa vie la 9e symphonie de Beethoven. En 1912, il se rend à Hambourg pour assister à un concert sous la direction d'Arthur Nikisch, le directeur de l'Orchestre Philharmonique de Berlin de l'époque, qui était à l'époque considéré tout simplement comme le plus grand chef d'orchestre d'Allemagne, voire du monde. Il fut ce soir-là tellement bouleversé qu'après le concert, une amie le présenta à Arthur Nikisch, mais Furtwängler fut tellement ému qu'il ne put dire un mot. Il fut ensuite nommé à l'Opéra de Mannheim en 1915. De 1920 à 1922, Furtwängler travailla tour à tour à Francfort-sur-le-Main, à Vienne, à la Staatskapelle de Berlin, à l'orchestre du Gewandhaus de Leipzig, où il succéda justement à Arthur Nikisch, et enfin le prestigieux Berliner, l'orchestre philharmonique de Berlin. À noter qu'il participa ultérieurement à de nombreuses représentations comme chef d'orchestre au Festival de Salzbourg et au Festival de Bayreuth. En 1922, il est déjà considéré comme le plus grand chef d'orchestre allemand en exercice. À partir de 1920, il travailla avec le musicologue Heinrich Schenker, dont les théories font souvent encore aujourd'hui autorité pour l'interprétation de la musique tonale. À l'époque de sa première partie de carrière, Furtwängler aimait beaucoup programmer des œuvres contemporaines. À l'époque, beaucoup d'Arthur Honegger, de Stravinsky, de Schoenberg. Son compositeur préféré était Béla Bartok sur cette époque. Également beaucoup de Mahler, de Prokofiev, de Ravel et de Richard Strauss. Malgré les différents contextes politiques opposant la France et l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale et pendant la Seconde, Furtwängler a toujours eu des postures intéressante. Il programmait souvent en Carmen de Bizet pendant la Première Guerre mondiale. Il n'est jamais tombé dans la haine des Français et souhaitait un rapprochement culturel de premier plan avec la France. Alors, ses postures ont toujours été plutôt controversées, notamment sa position de plus grand chef d'orchestre allemand en exercice sous le Troisième Reich. Il faut savoir qu'il était le chef d'orchestre préféré de Hitler et de ses sbires, et que cette position ne lui permettait pas forcément de quitter l'Allemagne ni de se révolter ouvertement. Cependant, il s'est servi justement de cette position plutôt favorable pour défendre ses nombreux amis juifs, qui étaient notamment des musiciens du Berliner, que le Troisième Reich souhaitait évincer. Il refusait systématiquement de faire le salut nazi et de jouer l'hymne nazi. À partir de 1935, il démissionna également de tous ses postes en lien avec le gouvernement nazi. En 1938, il fut très affecté par les exactions systématiques contre les juifs qui s'organisèrent et qui menèrent à la Nuit de Cristal. Alors, sa posture était controversée à l'époque, puisque bon nombre d'autres musiciens ou d'analystes, que ce soit politiques ou musicaux, considéraient que Furtwängler aurait dû fuir l'Allemagne. Or, lui, il était plus dans une posture d'émigration intérieure. Il était forcément extrêmement désarçonné par les faits qui étaient en train de se dérouler sous ses yeux dans son propre pays, mais il a choisi plutôt de résister, donc de l'intérieur, discrètement, en utilisant sa position de chef d'orchestre et de trésor national pour justement essayer d'aider au maximum ses amis juifs et non juifs. Là où d'autres auraient été condamnés à mort pour des faits de résistance, la position de Furtwängler, même si elle énervait passablement les membres du Troisième Reich, lui permettait de résister et de ne pas subir les foudres des nazis. Cependant, cette situation changea après l'attentat manqué du 20 juillet 1944 contre Hitler, quand il devint évident que Furtwängler avait des liens avec les membres de la résistance allemande au nazisme qui avait organisé l'attentat. Ayant appris que la Gestapo était sur le point de l'arrêter, il s'enfuit précipitamment en Suisse au début du mois de février 1945. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, il dut passer devant une commission de dénazification sur fond de guerre froide. Il fut totalement acquitté de toutes les charges contre lui. Il reprit la direction des orchestres à partir de 1947, donc bien sûr au Philharmonique de Berlin, où il dirigea les 5e et 6e symphonies de Ludwig van Beethoven. Cette période fut une véritable apogée pour le chef d'orchestre. Le violoniste Yehudi Menuhin, qui considérait que Furtwängler pendant la période nazie avait été irréprochable, vint à Berlin donc en septembre 1947, pour jouer le concerto pour violon de Beethoven avec lui. Une photo montrant les deux hommes se tenant chaleureusement la main fit le tour du monde à l'époque. De 1947 jusqu'à sa mort, il dirigea un très grand nombre d'orchestres, un nombre incalculable d'œuvres, avec des enregistrements et des interprétations à couper le souffle. À partir de 1951, il dirigea au festival de Bayreuth, qui était un véritable accomplissement pour lui tant il aimait la musique de Wagner. Il avait déjà dirigé le festival de Bayreuth en 1932, mais s'était brouillé avec Winifred Wagner, la belle-fille de Richard Wagner, qui était totalement antisémite et qu'il ne supportait pas. Ce premier festival de Bayreuth d'après-guerre fut inauguré avec la 9e symphonie de Beethoven et avec Elisabeth Schwarzkopf comme soliste dans le final. Ce concert symbolisait la renaissance de la culture allemande et un grand nombre de personnalités du monde artistique et de la politique étaient présentes. La direction du festival avait été confiée à Wieland et Wolfgang Wagner, qui modernisèrent la mise en scène. Herbert von Karajan dirigea les maîtres chanteurs de Nuremberg et Hans Knapper-Busch, un Parsifal exemplaire. Mais la palme alla à Furtwängler avec sa 9e symphonie en présence d'Elisabeth Schwarzkopf. Il décéda en 1954, le 30 novembre exactement, d'une pneumonie. Alors voilà, par ce court podcast, j'ai tracé un portrait de cet immense chef d'orchestre. À l'époque de la première partie du XXe siècle, il y avait deux immenses chefs d'orchestre au monde, Furtwängler en Allemagne et Toscanini en Italie, qui étaient tous les deux rivaux et avec une façon totalement différente et une conception totalement divergente de diriger un orchestre. Là où Toscanini préférait des interprétations comme c'est écrit par le compositeur, Furtwängler s'appropriait totalement les émotions que pouvaient lui procurer les œuvres pour les transcender. Donc Furtwängler est un immense chef d'orchestre du XXe siècle, un des plus grands musiciens que la musique occidentale ait pu avoir. Il a joué dans quasiment tous les orchestres occidentaux, en tout cas les plus fameux. Il a également joué à la Scala de Milan, que j'avais omis de préciser. Il a également joué aux États-Unis, malgré une certaine défiance de certains musiciens et des intellectuels de l'époque, suite à la controverse de ses positions pendant la Seconde Guerre mondiale. Et voilà, il reste quelqu'un d'extraordinaire et à qui je voulais rendre hommage par ce podcast. Je vais terminer, comme à mon habitude, par une citation de Wilhelm Furtwängler. « 1000 spectateurs parmi lesquels chacun juge de travers font, tous ensemble, un public fichtrement intelligent. »